Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Ketchup. Ketchup. De Ketchup, votre émission qui résume. Si je pense à la bouffe en fait, j'ai faim. T'as pas faim? Moi j'ai faim.
Oui, si, un petit peu faim.
Ouais, Ketchup et non pas Ketchup, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Yerem, salut tout le monde.
Alors dans cet épisode hein, de SmackDown, le dernier de l'année, on a besoin de vacances, hein, la preuve, hein, c'est un truc complètement foiré. On pleure le départ de Dolph Ziggler en organisant un tournoi. La division tag team nous offre un beau cadeau pour le Rusev Day. The Ascension prennent soin de leurs meilleurs amis et Shane McMahon est plus efficace qu'un barbiturique. Daniel Bryan hein, qui a appelé Dolph Ziggler en vain au téléphone. Dolph Ziggler, on se souvient, qui est parti la semaine dernière en laissant, en abandonnant le titre US. Il l'a appelé, mais il est sans réponse. Alors, on lui souhaite bonne chance, bon vent à Dolph Ziggler, bonne réussite. Pas le temps de pleurer sur son sort. Ce soir, on organisera un tournoi pour couronner le nouveau champ. Interruption des American Alpha 2. Qui invite Daniel Bryan à plutôt se préoccuper du championnat tag team, eux qui ont subi un peu la stipulation Fatal 4-Way hein, lors du pay-per-view, un superbe match, et qui ont piné hein, les champs la semaine dernière ou il y a deux semaines. Interruption ensuite du Rusev Day, qui rappelle en chanson hein, leurs propres exploits, sous les vivas de la foule de Chicago, hein, qui n'a de dieu, de cœur et d'oreille que pour Rusev. Puis ces interruptions du New Day qui viennent rappeler également qu'eux ils sont les tauliers et qu'au final tout le monde a piné un peu tout le monde ces dernières semaines dans la section tag team. Tout le monde a brillé, c'est vrai, on va pas le nier. Alors pour tirer cette affaire et un contender au clair, le GM qui n'a pas besoin de maman McMahon organise un first contender match right now. On a donc un triple threat qui se lance. Avec Xavier Woods qui dive à l'extérieur comme un fou. Il se prend un gros kick hein, d'Aiden English. Puis c'est Gable hein, qui place une énorme double souplesse arrière là sur Biggie English. S'il fallait nous impressionner encore plus, bah, il en a encore sous la semelle. Ou plutôt sous les hanches. Rusev hein, avec une énorme pop hein, qui est très demandé ce soir. Qui écrase un peu tout le monde à coups de pied, à coups de tatane. Lui qui a retrouvé des chaussures, on se souvient, dans ses débuts, il avait pas de souliers dans ses débuts, Rusev. Je sais pas si tu te souviens, il se battait pieds nus.
Oui, c'est vrai, tu as raison, il se battait pieds nus, mais ça fait longtemps qu'il se battait.
Oui, mais je parle d'un temps que.
Les moins de 20 ans.
Les moins de 2 ans ne peuvent pas connaître. Xavier Woods, hein, qui continue ses exploits bondissants. C'est Xavier Woods, c'est un peu l'homme fort hein, du New Day hein, dorénavant. C'est un peu lui justement qui a permis au New Day d'être les deuxièmes, non les troisièmes dans notre Catch Up Awards de la section tag team. Hot tag hein, sur Rusev qui nettoie le ring avant de se prendre une German suplex une fois de plus par Gable. Le match accélère, les gros near falls s'affolent, des combos à la coup de genou salto de American Alpha 2 qui tente un peu plus tard la double power bomb, mais Rusev sauve Aiden English, mieux il lui offre un splash pour le gros near fall. À ce moment là tout le monde peut gagner, mais c'est surtout le Rusev Day là, qui a des gros near falls. Gable et Woods sont empilés, c'est le moment pour Rusev. Motivé par la foule de placer sa prise de soumission. Oui, il chante Rusev Day, Rusev Day, et surtout il remplace son Mashka là, Rusev Mashka par Rusev Day. Il a changé son chant qui précède sa prise de soumission, l'accolade. Il place donc Benjamin Gable et Woods dans la collade, et c'est Benjamin vivant les vacances.
C'est Benjamin.
Monsieur Benjamin. Qui s'occupe de Biggie. On enchaîne après finisher de la part des American Alpha 2 pour le compte de 3. C'est bien Gable et Benjamin qui vont aller chercher les Usos. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre de voir ce SmackDown avant de faire les awards pour le match weekly de l'année? Parce que là, on avait un contender, hein.
Ouais, franchement, ouais. Alors, je sais pas si ça aurait bouleversé mon classement, mais clairement, il était magnifique ce match. Superbe, très belle entrée en matière. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas ouvert un SmackDown sur un aussi beau match. Et c'est symptomatique de cette année 2017. C'est une fois de plus les équipes qui nous offrent un super spectacle à SmackDown. Donc, la division tag team de SmackDown fait un magnifique finale pour cette année avec trois super équipes hein, derrière le Usos, hein. On voit vraiment qu'il y a une super division à quatre qui s'est bien mis en place. Alors si on revient juste, moi j'ai bien aimé l'intro de Brian. Je trouvais que c'était pour une fois c'était pas mal. Je t'entends plus par contre. Tu as dû te muter.
C'était pour dire oui, parlons-en, donc voilà.
Oui, donc l'intro de Brian était cool parce que, bon, bah voilà, pour eux, ils nous ont pas fait le. Enfin, si, c'était un peu un récap, mais ils nous ont pas réexpliqué tout ce qui s'était passé à SmackDown. C'était pour rebondir parce que vraiment, il y avait plein de questions du fait du départ de Dolph Ziggler la semaine dernière. Il fallait adresser le point. Donc, il est venu pour le faire. C'était bien. Donc, il nous book un petit tournoi. Ça fait toujours plaisir. Un petit tournoi. Alors. On verra au moment de l'annonce des affiches, on pourra se reposer la question un peu des affiches du tournoi. C'est vrai que certains auraient des griefs pour dire, bah écoute, je vois pas pourquoi je devrais me farcir un tournoi. C'est intéressant. Et puis bah les équipes qui viennent du coup chercher aussi se battre pour leur petit bout de gras. Donc j'ai bien aimé que les équipes viennent aussi un peu s'imposer là pour demander leur part du lion dans ce show. Donc super super match, Rusev. Dan English sont over comme jamais. Et c'est les bons vainqueurs, je pense, hein, malgré le fait qu'on aurait pu vouloir. Mais il y a encore moyen de faire monter un peu plus. Ils l'ont bien fait avec quelques near falls, mais ça aurait été trop tôt, peut-être, pour le Rusev et Dan English d'aller affronter les Usos. Donc là, je pense que c'est le bon vainqueur. On va enfin officiellement avoir le droit à Gable et Benjamin contre les Usos pour le titre, probablement. Bah, c'est la semaine prochaine, d'ailleurs, j'allais dire. C'est la semaine prochaine, donc j'ai hâte de voir ça. Donc bien.
Ouais. Dès la semaine prochaine, ouais. Ouais, on va bien commencer l'année. La division tag team hein, qui aura porté 80% de SmackDown tout au long de l'année. Donc voilà, c'est une belle conclusion hein, pour cette année. On va rebondir justement sur cette histoire de tournoi US. Tu l'as très bien dit, ça a été plutôt bien amené. On ne sait vraiment pas ce qui va devenir de Dolph Ziggler. Personnellement, je ne cherche pas à savoir. Je veux conserver la surprise éventuelle d'un retour. Voilà. Même si ça me semble un peu coton, cette histoire-là avec un tournoi US. Mais quoi mieux que organiser un tournoi pour faire revenir Dolph Ziggler en mode « Eh les gars, vous avez organisé un tournoi. Vous êtes fous, quoi. » Peu importe.
Ouais.
On a deux matchs dès ce soir. Tu parlais d'affiches plus ou moins étranges. La première, eh ben, c'est tout simplement Bobby Roode qui affronte le Baron. Affiche bien étrange puisque effectivement il faisait partie du Triple Threat. Le Baron est le champion sortant et ils se retrouvent déjà tous les deux en face à face dans ce qui est donc les quarts de finale. Bobby Roode qui se retrouve pendu et frappé par le Baron, il survit tant bien que mal aux impitoyables coups de poing de l'ancien champion de boxe, universitaire, hein, je crois que c'était un truc comme ça, c'était pas non plus Mohamed Ali, même si ça se tient je pense, et les deux seront, je pense que je me placerai les deux un peu au même niveau. Énorme sliding lariat à l'extérieur, Bobby Roode qui se rebiffe, hein, il ramène l'affrontement au centre du ring, glorious moment, contré par le fabuleux Deep Six pour le compte de deux, et c'est sur un glorieux roll-up que Bobby Roode remporte la gagne. On peut imaginer aisément avoir le Baron légitimement aller contester ce tournoi, et en tout cas cette place qu'il a eue là face à Bobby Roode ce match, puisqu'il se fait éjecter, lui, le champion sortant, dès le premier tour.
Ouais. Ouais, drôle de. Écoute, ouais, on aura peut-être l'occasion d'en débattre quand on parlera du petit segment avec Shane McMahon, mais c'est vrai que surprenant cette affiche. Est-ce que c'est pour servir l'histoire parce qu'ils l'ont clairement cité un peu plus tard que cette affiche était quand même un peu étrange. C'est vrai que comme ça, là, moi, j'ai pas trop compris. Le Baron est le champion sortant. Il a clairement le droit à autre chose que de devoir se farcir. Ils sont 8,
ils
donc
sont 8, ouais.
7 autres concurrents dans un tournoi pour remporter le titre. Et Bobby Roode était dans le triple threat et ne s'est pas fait. ne s'est pas fait pin. Non, il ne s'est pas fait pin. C'était le Baron, Baron qui s'était fait, qui avait pris le tombé. Donc pareil.
Oui, c'est vrai que c'était le Baron. Ouais.
Et donc pareil, il avait, il aurait pu avoir des greffes. Mais bon, lui, il est face. Alors, il va pas se plaindre et tout. Mais bon, il aurait pu aussi se dire, c'est pas juste et tout. Donc un peu surprenant, mais. Bon, écoute, moi je suis toujours content de voir un petit tournoi, ça fait longtemps, à chaque fois j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais je pense que ça doit être assez rare quand même. Et puis bon après sur le match, pas grand chose à dire, je trouve pas que les deux fonctionnent très très bien ensemble.
Non.
Donc c'était passable en plus, on va dire, voilà, avec une victoire quand même, quelle que soit la victoire, en fait ça aurait été un peu surprenant, parce que c'est vrai qu'on mettait on mettait un petit peu deux favoris du tournoi, puisqu'ils étaient pleinement impliqués dans la title scene des États-Unis. Donc c'est vrai que d'en voir sortir un au premier tour, c'est un peu surprenant, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ce match, à voir comment ils vont s'en servir.
Pour moi, c'est purement pour servir l'histoire, hein. Là, il faut pas y chercher plus loin. Et ce serait dommage de pas en profiter, hein, ça c'est certain. Écoute, je te propose de faire un petit retour en arrière, parce qu'effectivement, on avait avant cela une séquence backstage entre Daniel Bryan et Shane McMahon. Oui. Qui est justement plutôt lié à non seulement au tournoi, et on reviendra sur le deuxième match, mais évidemment à cette affiche, la Baron versus Bobby Roode, parce que comme tu l'as dit, Shane est venu un petit peu chercher querelle auprès de Daniel Bryan backstage. Après, visiblement, il a beaucoup tergiversé là pendant les fêtes de Noël. Il a du mal à digérer un peu l'affront, hein, que Daniel Bryan a fait lorsqu'il l'a comparé à son père. Et là, Shane, dans un long monologue, hein, dont il a l'habitude de nous servir, prend la défense de son père en disant que voilà, Vince McMahon, il a quand même révolutionné le business, God damn it, etc. Blablabla, vous connaissez le bullshit marketing. Après, c'est vrai, toi, évidemment, mais bon, voilà, Shane McMahon n'avait pas forcément besoin de servir toute cette soupe. Il lui dit, alors tu vas m'expliquer pourquoi t'as organisé un tournoi, le tournoi dont on vient de parler, comme si, pourquoi tu as booké le main event comme ça. Donc, il remet en cause le main event dont on parlera ce soir, qui oppose Kevin Owens et AJ Styles, et comme il aime pas Kevin Owens, il supporte pas l'idée que Kevin Owens soit là avec, évidemment, son copain Sami Zayn. Bon, il est en mode un petit peu micromanagement, là, on adore ça, hein. Ça vous rappellera vos N+1 les plus terrifiants de l'histoire de votre carrière professionnelle. Alors, Daniel Bryan lui rappelle que c'est SmackDown, le Land of Opportunities, que Shane commence à montrer un petit peu justement les mauvais côtés de son père. C'est ça dont il voulait le mettre en garde, hein. Shane répond qu'il a booké le tournoi Daniel Bryan lui explique qu'il a tourné le tournoi comme si, et que le main event il l'a booké comme ça parce que voilà. Et Shane McMahon répond ok, et puis ça s'arbite comme ça. Il fait d'accord.
Ouais.
Donc un peu étrange, Shane McMahon, là ça a duré des plombes. Alors il nous a pas fait un récap de la semaine dernière, mais il nous a fait un récap de ce qui allait se passer ce soir, hein. C'est une petite variation, hein. C'est un peu lourdeau. Et il a l'air complètement paumé avec son perso, non, Shane?
Écoute, je sais pas, moi j'ai plutôt bien aimé cette séquence, je suis pas trop longue. J'ai pas eu le sentiment, mais en fait j'aime bien parce que ouais, il a l'air un peu paumé comme tu dis, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que clairement il est dans du micromanagement à l'extrême.
Et on verra plus tard, et du coup
c'est assez cohérent avec son personnage qui clairement c'est pas un commissionneur, en fait c'est un GM refoulé, Shane McMahon. Il veut être, en fait il aurait dû être GM et commissionneur à la fois. Ça transpire, ça se voit de plus en plus maintenant, il veut tout gérer. Il avait des bons points, il avait des points un peu plus limites, parce que bon voilà, son point sur le match US, je trouve, était plutôt valable. C'est vrai que c'est une question qu'on aurait pu tous se poser, à laquelle Daniel Bryan a plutôt bien répondu. Écoute, il se cache derrière le Land of Opportunities pour mixer tout le monde. Après tout, pourquoi pas, on en a marre de ce sacro-saint rematch éternel et tout. Pourquoi pas, ça se vaut, les deux points de vue se valent. Sur le main event, on peut comprendre pourquoi, oui, en effet... Tu leur continues à leur filer des super spots aux deux alors que c'est des casse-couilles. Tu sais très bien comment ça va se finir. Ils vont intervenir, ils vont tricher et tout. Ce qui est d'une certaine façon, ce qui est vrai aussi. Mais bon, en même temps, t'as envie de te dire, bah, lâche-leur la grappe. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers qui trichent. C'est bon. Lâche-les et tout. Donc, on continue avec cette ambivalence un petit peu, je trouve, où les deux camps se valent un petit peu, mais tu as toujours ce côté de Shane qui il n'arrive pas à lâcher, il a lâché prise, à lâcher le morceau, et tu sens que ça le ronge. Et donc c'est, moi j'aime bien. C'était assez court et je trouve et assez discret cette fois dans le show par rapport à la longue ouverture qu'il a pu avoir la semaine dernière. Mais je trouve qu'on continue de développer un truc pas trop mal entre les deux, où Daniel Bryan qui essaye de jouer un peu le GM de la raison, le GM tempéré, mais ouais. qui en même temps, tu te demandes quand même s'il roule pas un peu pour lui. Donc j'aime bien, moi, perso.
Non, mais alors, entendons-nous bien, on reste dans la même lignée de ce qui a été fait la semaine dernière, et il y a une semaine ou deux, j'étais plutôt content de ce qui était en train de se passer, parce que, comme tu le dis, on sait toujours pas vers où on va en termes d'alignement, etc., ce qui est plutôt agréable à suivre. Par contre, c'est vraiment le monologue sur son paternel qui était un petit peu... Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu too much, quoi. Vraiment, là...
Peut-être un peu ça.
Nous le rappeler, etc. Et il n'y avait pas vraiment de raison de se justifier. Je pense que ça peut être bien aussi que... comment dire... S'il veut ne pas se mettre en défaut, il faut qu'il tienne sa ligne qui est « Je veux pas faire comme mon père », ce qui est sa ligne depuis le début. Et là, grosso modo, il justifie, il trouve des points positifs de Vince McMahon, et du coup, ça s'écroule un petit peu son alignement habituel, où justement, ses actions sont incohérentes, on va dire, avec son discours. Sauf que là, son discours, il change s'il commence à défendre son père. Contre qui il se bat depuis son retour. Bon, c'était juste ça, c'était pas dramatique. Il y a des choses plus dramatiques ce soir. On y reviendra un peu plus tard. On va terminer un tour de tournoi US si vous voulez bien, puisqu'il y avait comme un deuxième match avec Ty Dillinger. Il est de retour. Voilà, on se demandait où il était passé. Il est là, qui affrontait ce soir Jinder Mahal. Voilà, Jinder Mahal. Du coup, qui redescend dans la carte, évidemment.
Et oui, chacun son tour.
Chacun son tour. On se demandait dans quelle ruelle sombre on avait oublié Ty Dillinger. Et c'est une ruelle sombre de Chicago, visiblement. Donc il est de retour pour se faire éliminer du tournoi, évidemment, par le Modern Day Maharaja. Malgré ses actes de bravoure, le Perfect Ten ne peut rien contre la puissance de l'homme à la plus fulgurante progression de 2017. Jinder Mahal se qualifie donc pour les demi-finales et ira peut-être affronter Bobby Roode. Je ne sais pas s'ils l'ont...
Je sais pas s'ils ont présenté l'arbre.
On n'a pas vu le tableau. Bon, Jinder Mahal, on descend un petit peu, mais pas trop, quoi.
Ouais, voilà, on descend un peu, pas trop. Ça aurait été très étrange de pas le voir dans le tournoi après la place qu'il avait eue cette année. Il y avait toute sa place. Et c'est marrant. Bon, alors après, je suis biaisé. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, parce que moi j'ai été grand fan du Modern Day Maharaja cette année, donc c'est vrai que je sais pas si mon avis vaut quelque chose, mais je sais pas, je trouvais pendant le match que Jinder avait, tu me diras c'est pas dur par rapport à Ty Dillinger, mais il avait une certaine aura un peu pendant le match qui faisait que je trouve qu'il était crédible en favori absolu, en fait. Enfin, tu sentais qu'il avait acquis, on va dire, une certaine crédibilité tout au long de cette année avec son règne et tout. Aider aussi aux commentaires, ils ont vachement joué sur le fait que Jinder, quelle progression, il a été champion, machin. Ils l'ont vachement booké comme ça pendant les commentaires. Mais je trouvais que genre il dégageait un truc qui faisait que il y avait un côté la victoire est inévitable. Enfin, Jinder, c'est quand même maintenant c'est une sacrée tête d'affiche. Il est costaud, il a défoncé, il a fait preuve encore d'une puissance qui est, je trouve, il fait de mieux en mieux, des moves assez impactants sur le pauvre Ty Dillinger. Et quand il a gagné, j'avais un peu le sentiment de ça s'imposait. Enfin, il y a un côté, voilà, c'était l'évidence. C'est un ancien champion du monde. Il est au sommet en ce moment. Il est très fort. Il a gagné. Je trouve que l'image collait pas trop mal. Moi, c'était le truc que je retenais un peu du match. Je sais pas si j'arrive bien à exprimer ma pensée là. Mais en fait, je sais pas. Je me dis, il tire sur ce genre de petit match. Il tire un peu les fruits. Il tire un peu le bénéfice de toute cette année de booking ultra costaud. Pour se dire, voilà, maintenant c'est un peu un player, tu vois, genre c'est un peu il est là, il compte, quoi. Et j'ai trouvé qu'on le ressentait pas mal sur ce match.
Mais de toute façon, il faut qu'ils s'appuient sur justement le fruit tombé de l'arbre là qu'ils ont planté.
Ah oui.
Et qui
ils peuvent pas abandonner.
On peut pas abandonner comme on a abandonné des mecs qui étaient juste des one shot, toi du type Jack Swagger, ou ça, des mecs qui sont
par exemple, c'est un bon exemple.
Oui. Qui se sont cramés les ailes avec un titre mondial pendant 2 mois. La façon, ils ont insisté, ça a plu, ça a pas plu, peu importe. Il est là maintenant, Jinder. Ils ont réussi à créer. Et on leur reproche suffisamment de pas réussir à créer des top stars, que ce soit heel ou face. Alors, il est pas du calibre forcément d'un main eventer, mais il devient un heel menaçant.
Oui, voilà,
c'est qui, ça. Effectivement, est dorénavant, à l'heure actuelle, hein, en tout cas.
À prendre au sérieux.
À prendre au sérieux, un favori. Tu le mets face à Tiny Dillinger, tu te dis Tiny Dillinger, il a aucune chance. Ce serait une surprise en fait, ce qui est fort, ce serait une surprise que Jinder Mahal perde dorénavant.
C'est exactement ça que je trouvais intéressant justement, c'est d'avoir finalement réussi à créer un peu une aura suffisamment grande pour te dire que finalement ces matchs un peu lambda, parce que le match n'était pas extra, je trouvais qu'il n'avait pas été forcément très bien booké, dans le sens où Tiny Dillinger, à aucun moment, on avait eu cette petite étincelle qui se disait
ça,
il pouvait créer la surprise. Mais justement, ils ont réussi à faire un truc qui fait que maintenant, ces matchs lambda sans intérêt ont quand même un soupçon d'intérêt, parce que Jinder maintenant est tellement au-dessus de ce qu'il était avant que du coup le résultat a un peu d'importance. Quoi. Si Tiny Dillinger gagne, c'est l'upset, tu vois, genre c'est un truc de ouf pour lui. Alors que auparavant, on s'en foutait un peu de savoir si Jinder Mahal perdait.
Ouais, et voilà, hein, donc on peut encore compter sur Jinder Mahal pour 2018.
Ouais.
Voilà,
c'est un favori du tournoi.
C'est largement un favori du tournoi. Donc, la suite, la semaine prochaine, hein, ça va aller vite, ce tournoi, hein, visiblement. On n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Je vous parlais tout à l'heure de quoi dans cet épisode il y avait des choses pas terribles. Et les choses pas terribles, c'est encore et toujours la division féminine.
Oui.
On nous rappelle dans une petite séquence le Royal Rumble féminin. En grosso modo, on peut résumer à la division féminine aujourd'hui, c'est des coupures presse, hein, puisque on fait des grosses annonces, on nous fait des screenshots des sites internet qui relaient les releases presse de la WWE. Et voilà, pour le reste, circuler, il n'y a rien à voir. La preuve dans un match entre Ruby Riott et Naomi. Un match, moi j'ai mis match de merde, mais un match en. Au mieux, très moyen, gagné par...
De toute façon, ça a duré 1 minute, non, c'est ça?
probablement, oui, c'était assez court, hein, match gagné par Ruby Riott. Puis, on a un passage à tabac sur Naomi, puis Charlotte déboule à la rescousse. Je t'avoue que je m'attendais à ce que ce soit Becky Lynch qui débarque. Hein.
Oui, pas encore.
Charlotte qui arrive à la rescousse, qui finit par se faire allonger à son tour. Bon, elle place de 3 droites, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc là, tu dis, ok, bon, déjà, ça va un petit peu mieux. Au moins, elles se font pas rouler dessus par la championne, alors qu'elles sont 3. Et alors là, c'est là où ça commence à. C'est là où ça part en cacahuète. C'est le reste du roster qui débarque. Alors, on a le top, hein, la crème de la crème. Natalia, Tamina, Lana et Carmella.
Tout le reste, hein. Ouais.
tout en A, voilà. Toutes celles qui ont un nom qui se termine en A. D'ailleurs, elles pourraient se trouver un nom de faction comme ça. La A-Team avec les entre guillemets The A-Team.
Ouais, là, leur donne pas trop d'idées quand même.
Et donc qu'est-ce qu'ils font Riot Squad, eux qui sont venus semer la terreur, hein, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait quand on vient semer la terreur et que un affrontement arrive, s'annonce?
Attends, on s'enfuit, hein.
On s'enfuit. On s'enfuit et Riot Squad s'enfuit la queue entre les jambes. Elle est pas belle, la division féminine?
Ah si, elle est belle. Non, bon, c'est un peu sévère parce qu'elles s'enfuient, parce que du coup elles s'enfuient parce qu'elles sont 3 contre 4 là, donc c'était.
Ça va.
Ouais. Mais non, c'est pas intéressant. Le match était naze, j'ai pas grand chose à dire. Hein. De toute façon, le match était pourri. D'un seul coup, du jour au lendemain, les heels se rebellent alors que quand elle était. En lumberjack, c'était elle se foutait des petites poussettes, mais sans plus. C'est un coup, elles se sont tiens cette semaine, elles se sont dit tiens on en a marre, ouais fuck. Alors qu'elles devraient en avoir rien à foutre en fait que le Riot Squad tabasse Naomi et Charlotte. Donc tu sais pas pourquoi elle vient de se rebeller pour mater le Riot Squad. Bon, c'était pas terrible.
Non, bon, allez, hein, on va poser un voile sur
ouais,
la
ouais.
division
C'est pas, ça
féminine.
m'intéresse pas. Ouais.
Non, c'est inintéressant au possible. On a une petite séquence backstage avec Randy Orton puis Nakamura qui annoncent officiellement leur présence au Rumble. On est content?
Oui, on est content, c'est bien. Il faut c'est la tradition.
C'est la tradition.
Comme il est de tradition, nous on annonce ses entrées au Royal Rumble, donc voilà. Ok.
Écoute, actuellement j'ai pas de programme, du coup j'en profite pour dire que je serai au Royal Rumble. C'est un peu ça.
Ouais.
Backstage, Kevin Owens fait péter le champagne. Le champagne refusé par Daniel Bryan la semaine dernière, souvenez-vous, pour célébrer en avance sa victoire sur AJ Styles. Mais je fais un petit retour en arrière, puisqu'avant de parler du main event, j'avais oublié presque le plus important. Breezango, la Fashion Police, a eu un match ce soir. Eh oui,
ils ont
eu un match. C'est pour ça que j'ai failli les oublier, les pauvres, parce qu'on a plus l'habitude d'avoir un paragraphe entier sur Breezango. Ils affrontaient les Bludgeon Brothers dans un rematch, et c'est là où c'est drôle, booké par The Ascension. Bon, évidemment, ils se font squasher, ridiculiser, encore plus quand Rohan annule le compte de 3. Pour en remettre une couche, ça c'était pas mal,
c'est
bien vu.
C'est toujours mal ça. Ouais.
Ouais. Ça fait mal effectivement. Inquiet pour la santé de leurs meilleurs amis, Victor et Connor sont venus interrompre le match et les sauver d'une mort certaine. Alors, Victor ou Connor, faudrait vraiment que j'apprenne qui est qui. Qui est un des deux, alors je ne sais plus c'est lequel, c'est Fandango peut-être.
Je crois que Victor c'est l'énorme et Connor c'est le petit, mais je suis pas sûr. Hein.
Disons que Victor c'est l'énorme, il portait Fandango, je crois, sur ses épaules comme ça, et il le ramène. Ou c'était Tyler Breeze, peu importe.
C'est pas grave.
Il le ramène comme ça. Enfin, c'était vraiment très très drôle. Mieux, un peu plus tard, en tant que meilleurs amis, lors d'une interview, ils affirment que Breezango aura cœur à se venger la semaine prochaine. Du coup, ils rebookent un rematch. Et là, tu vois Breezango qui sont à moitié sonné comme ça et qui fait mais non, on veut pas ça. The Ascension qui veulent trop bien faire.
Oui.
J'ai trouvé ça très très drôle.
Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. C'est une façon assez marrante de se servir de la Fashion Police et tout en gardant des prétextes pour donner des squashs un peu gratos aux Bludgeon Brothers.
Ouais.
Voilà, écoute, c'est assez léger. D'un côté, on se sert bien de la Fashion Police et puis de l'autre côté, on conserve l'aura destructrice des Bludgeon Brothers. The Ascension me font beaucoup rire. Et après, c'est vrai que ce segment me fait toujours marrer, ça, parce que c'est un des clichés, mais un des clichés du catch. C'est genre quelqu'un qui book un match pour toi et que tu veux pas, mais alors vu qu'il l'a dit, c'est terminé, tu vois.
Oui,
genre,
oui. la parole est d'or. Hein,
la parole est d'or, c'est fini. Tu vois, y a même pas besoin d'acter le truc. C'est genre oh non, il a dit que j'allais avoir un match, c'est fini, tu vois.
C'est ça, oui.
Voilà, c'est officiel.
Oui, la suspension d'incrédulité doit être totale, mais c'est vrai que ça fait partie totalement du charme de ces petites séquences. Autant des fois, ça nous agace, ces mecs qui se bookent des matchs.
Ouais, quand c'est comme ça, c'est drôle.
Mais là, c'est très très drôle. Et effectivement, c'est une façon originale d'enchaîner les squash matchs pendant quelques semaines. Et puis ça nous permet de les revoir enfin entre les cordes, même si ils ont pas le temps de faire grand chose, là, les Breezango. Mais c'était plutôt bien trouvé. On revient au main event, hein, aux choses sérieuses. AJ Styles donc, versus Kevin Owens. AJ Styles est surmotivé, il sort des sapins de Noël comme ça pendant son entrée. L'image est magnifique, on est le 26 décembre. Il attaque direct un Kevin Owens qui se bouffe un peu tout dans la tronche. Curl Crusher avorté, Kevin Owens qui parvient difficilement à maintenir son adversaire au sol sous les taquineries incessante hein, de Sami Zayn qui est bel et bien là. Il brise la nuque de AJ Styles, là c'est assez violent. Il se bouffe hein, les enchaînements sans pitié du phénoménal One. Gutbuster de Kevin Owens et une incroyable descente du coude là depuis le turnbuckle où il pivote sur lui-même. Kevin Owens qui trouve toujours un moyen de faire une petite variation de son arsenal. On parlait hein, de Sheamus et Cesaro qui avaient un arsenal complet et où chaque prise pouvait être le finisher. Kevin Owens, il a un peu de cette trempe-là. Là, en weekly, il balance une petite variation comme ça, une descente du coude qui est vraiment une prise hyper classique. Et là, il en fait quelque chose d'original. Sami Zayn se sacrifie ensuite pour prendre le dive de AJ Styles. Kevin Owens place alors un super kick pour le compte de deux, qui débarque, money, Shane McMahon, qui n'est vraiment pas content de ce qui est en train de se passer, il insiste auprès de l'arbitre pour virer Sami Zayn des abords du ring, mais mal lui en prend, c'est bien Kevin Owens qui profite de la situation pour allonger le champion, pour le tomber de 3, les deux Canadiens jubilent, hein, sous le regard paumé du commissionnaire. Sami Zayn est trop drôle parce qu'il est sous la rampe, il était en train de partir, ouais, hein, de se faire virer, et il est juste à côté de Shane O'Mac qui est complètement paumé, qui voit bien que là il a fait une connerie quoi, et il regarde, il s'excuse un peu à moitié, et, yep, et puis
faut que j'y retourne là.
faut que j'aille yepper avec mon copain parce qu'il a gagné, toi.
Tu comprends?
Et on a droit à un petit regard là entre AJ Styles et Shane O'Mac, hein, AJ Styles et Shane O'Mac, hein, pareil, une rivalité, voilà, ils ont un passif tous les deux, et Shane O'Mac qui dit bah je suis désolé gros, et AJ Styles fait ouais, enfin bon, t'es désolé mais bon, ça tu fais chier. Et c'est sur donc cette victoire des Canadiens que s'achève l'année 2017 à SmackDown.
Et oui, bah écoute, mais une event correct, un peu décevant quand même. Enfin, toujours, je sais pas.
On n'a toujours pas eu The Match entre Kevin Owens et Sami Zayn.
Voilà, exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça le truc. Je pense qu'on avait déjà dû avoir ce commentaire-là par le passé, parce qu'ils ont eu une feud et ils ont eu quelques matchs un contre un.
Ouais, la feud autour du titre US, à chaque fois, était un petit peu frustrante.
Il
n'y
a pas cette alchimie.
Ils n'ont jamais réussi. Ouais.
Bon, alors après, c'est vrai que cette feud autour du titre US, on leur avait un peu foutu des bâtons dans les roues scénaristiques avec ces...
C'est-à-dire des bâtons en forme de Shane McMahon.
Avec des bâtons en forme de Shane McMahon, qui décidément est dans tous les sales coups, hein, mais avec des décisions arbitrales douteuses, des faux finishes, des finishes un peu botchés même, on ne sait pas trop et tout. Donc c'est vrai que ça n'a jamais trop aidé, mais on n'a jamais eu vraiment le match, comme tu dis, voilà, c'est ça la bonne formulation, et je me demande si vraiment il y a une alchimie de fou entre les deux, je suis pas convaincu. Bon, après, voilà,
on l'a pas vu en tout cas.
Non, après voilà, ça reste très propre parce qu'ils ont un tel talent que voilà, ça nous donne un main event d'un quart d'heure qui est de top qualité. Il y a rien vraiment qui est à jeter. Mais
c'était un beau main event pour terminer l'année,
voilà,
malgré tout.
Voilà, mais tu te dis, putain, AJ Styles, Kevin Owens, j'ai jamais vraiment pris mon pied cette année, quoi. Et ça n'a pas vraiment dérogé à la règle. Donc voilà, on ne va pas faire notre fine bouche, mais un petit grief là-dessus. Ouais. Après, sur le finish, j'ai trouvé ça très, très sympa. Enfin, très bien foutu pour une fois. Pas mal exécuté. Shane McMahon, c'est ce qu'on se disait en début d'émission, quoi. Il est pris par ses démons en fait, parce qu'il veut bien faire encore, il veut bien faire parce qu'il a une idée dans la tête, c'est il faut que j'arrête ces deux petits connards, parce que c'est vrai qu'ils se comportent comme des petits cons, ils le font bien, Kevin Owens et Sami Zayn, t'as envie de les claquer là, Sami Zayn il est insupportable à toujours chercher la mouche et tout là. Donc il a envie de mettre fin à ces deux petits connards là, mais il n'y arrive pas. À chaque fois ils sont plus malins que lui, à chaque fois ils trouvent une solution. Si c'est pas une pince pour couper les menottes, ou le ringside, c'est pas vraiment le ringside, je suis sur la rampe, ou alors il trouve toujours une crasse à faire. Et donc là ils ont encore trouvé, sauf que du coup cette fois ça a coûté la victoire au champion de la division, et ce regard lourd de sens à la fin, j'aime bien. J'aime assez toutes les implications qu'il pourrait y avoir là-dessus. Donc voilà, Shane McMahon s'embourbe dans sa volonté de tout manager, de tout vouloir bien faire, et donne encore du grain à moudre à Daniel Bryan la semaine prochaine pour dire regarde, tu vois, tu fais n'importe quoi. Et en même temps, on continue à voir que Kevin Owens et Sami Zayn sont ingérables. Maintenant, il y a l'équation qui vient de rajouter une inconnue avec AJ Styles. On ne sait pas trop comment il va réagir. Pas mal ce petit main event. Moi, j'ai bien aimé cette fin.
Je suis d'accord avec toi. C'est devenu très naturel, très organique, et vraiment,
ouais, exactement,
fichtrement bien écrit. C'est ça qui est terrible. C'est Shane O'Mac. Enfin, je l'ai mis dans mon. Pour moi, c'est le mec qu'on nous a fourré au fond de la gorge comme une dinde de Noël, comme pardon, comme une oie, pardon, tout au long de l'année, mais pour autant, il est une des variables d'une histoire la mieux écrite depuis ces dernières années, qui tire ses origines depuis un bon bout de temps maintenant. Et là, effectivement, c'est vraiment très organique, c'est super bien foutu. On arrive à nous remettre AJ Styles dans l'équation. AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn, Daniel Bryan, Shane McMahon, tout ce beau monde-là, dans ce qui pourrait être une histoire à écrire pour les débuts de 2018, hein, peut-être pour le Rumble, peut-être même ça va jusque WrestleMania, on ne sait pas. Et ben c'est bien foutu et je suis d'accord avec toi. On n'a peut-être pas eu là notre match encore référence entre les deux zigotos, mais pourquoi moi ça me dérangerait pas de l'avoir autour du titre mondial par exemple, hein, Kevin Owens et AJ Styles, ça s'écrit là tout seul.
Et oui.
Donc on a été gâté, enfin on a été gâté. On a eu en tout cas une belle conclusion pour cette année-là, pour cette année 2017. Et du coup, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, pour SmackDown.
Yes. Donc, bah mon top, mon flop et ma note, c'est ça.
La formule n'a pas changé. La formule n'a pas changé.
Peut-être pour 2018 des innovations.
Ah bon, on verra.
Bon alors ma note déjà, on était borderline du 4, mais les filles continuent à me saouler, alors je vais mettre que 3,75, mais ça reste une bonne note. Je me suis bien amusé devant ce SmackDown, à part les filles en fait. Maintenant de toute façon je zappe, je fais avance rapide sur les nanas, mais j'aime bien nouveau tournoi US, les tag teams aussi qui fonctionnent bien, fonctionnent très bien, l'intrigue autour de Daniel Bryan, Shane McMahon m'intéresse de plus en plus. Donc écoute, c'était un bon petit épisode, donc 3,75 sans problème. Mon flop, écoute,
pas facile.
Je vais pas le donner au, vous avez compris, de toute façon les filles seraient mon flop chaque semaine, donc je vais pas m'emmerder avec ça.
Bon, on s'attend plus à grand chose du coup, donner le flop, bon effectivement.
Donc mon flop, qu'est-ce que ce serait mon flop en fait? Si j'enlève les filles, j'en ai plus trop. À la limite, je vais peut-être mettre je vais mettre parce que c'est dommage parce qu'il est peut-être un peu sacrifié juste pour des questions de scénario, mais je mettrais peut-être mon flop à la défaite de Baron Corbin que je comprends pas trop en l'état, hein, si on la prend à un instant T, j'ai pas été très fan de ça, ça m'a un peu gêné de le voir sortir aussi vite de la course au titre. Parce qu'il avait été mis contre Bobby Roode.
Ouais, d'autant plus qu'il avait fait un travail, j'en ai pas parlé, mais pendant le match, Bobby Roode s'est tenu les côtes tout le long du match. Donc il était blessé, Bobby Roode, et ça n'a même pas permis au Baron de l'emporter. Donc il perd un peu clean là. C'est un peu difficile effectivement.
Donc voilà, et puis bah mon top, voilà, j'en avais un petit paquet, mais mon top, et bah écoute, je vais le mettre à Rousseff et à Aidan English pour son magnifique big splash là. Mais en fait, j'ai adoré la prestation des deux, qui ont été grandement aidés par le public de Chicago, qui était complètement derrière le Rousseff Day. Mais voilà, Rousseff Day, c'est la révélation de cette fin d'année. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire en 2018. Et sur cet épisode-là, ils m'ont offert quelques near falls qui m'ont bien fait vibrer. Et c'est vrai que même si je suis assez content pour des besoins scénaristiques, on va dire, je suis assez content d'avoir vu Gable et Benjamin gagner. Et ben pendant plusieurs moments dans le match, ils m'ont fait vibrer. Et c'est vrai que ça m'aurait pas déplu quand même de voir un gros feel good avec le Rousseff Day. Donc bravo, beau petit match. Et puis ils continuent de faire leur trou de la meilleure des façons.
Ah, ça sera peut-être un WrestleMania moment 2018, hein, la victoire du Rousseff Day.
Qui sait, est-ce qu'on va avoir le droit à un magnifique Rousseff Day moment à Mania? On ne sait pas.
Moi, je mettrais bien une petite piécette dessus si j'étais booker, en tout cas.
Ouais, ce serait le bon moment de le faire.
Voilà, on a les fruits, hein, de ce magnifique Fatal 4-Way qu'ils nous ont offert au pay-per-view, hein, où ils ont mis tout le monde très très fort. Alors moi, mon flop, alors c'est vraiment le monologue de Shane O'Mac, la backstage, qui a un peu endormi tout le monde, sauf Giscal, y compris Daniel Bryan, qui le regardait comme ça pendant 10 minutes à faire son long monologue où il rappelait tous les hauts faits de son paternel. Je trouvais que ça sonnait faux par rapport à tout le reste. On a
Soit,
suffisamment
soit.
parlé. Mon top, c'est The Ascension, l'intervention de The Ascension pour sauver Breezango des griffes des frères Marteau et la petite séquence qui s'ensuit où boucle les matchs. C'était vraiment très très drôle. Et je suis bien content qu'il continue à nous faire rire, mais dans une autre formule, quoi, parce que c'est vrai que la Fashion Police, ça refait notre année 2017, mais enfin, refaire une année 2018 avec juste ses parodies de sitcom, on a envie de voir autre chose, et c'est une bonne façon de les faire évoluer, de les faire revenir entre les cordes. Et ma note, c'est un 3,5. Comme toi, j'ai bien aimé là, cet épisode de fin d'année, avec des bonnes idées, comme ce tournoi. Je m'inquiète quand même un petit peu par rapport à Dolph Ziggler là. Et puis toutes les bonnes choses. Voilà, on jette évidemment la division féminine, mais ça c'est la division féminine toute l'année. On peut la mettre aux toilettes, tirer la chasse. Puis si on peut repartir sur autre chose le plus rapidement possible, ça serait pas mal. Et donc voilà, c'est comme ça que SmackDown se termine. SmackDown,
Eh
le
oui.
cru 2017, qui aura été un bon cru sur certains points et un peu moins bon sur d'autres. Pour le savoir, je vous invite toutes et tous à écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, nos Catch Up Awards, notre émission
Eh
spéciale
oui.
fin d'année 2017. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur PodCloud et sur iTunes, tout comme tous les épisodes de Catch Up, évidemment. Je vous donne rendez-vous. Je sais que les gens n'aiment pas ça, ils en ont marre, mais je vous donne
C'est
rendez-vous
l'année
l'année
prochaine.
prochaine, tout
Eh ouais,
simplement.
eh
Et oui, à l'année prochaine
ah, pas
pour un nouvel épisode du supplément SmackDown. On sera là hein, pour analyser hein, ce premier épisode 2018 avec un bon match de championnat qui s'annonce pour la division tag team. Merci évidemment à tous ceux qui étaient sur le chat. Voilà, nos petits habitués, Maxence, Richard et tous
Merde,
les autres.
j'étais pas sur le chat. J'espère que Maxence a parlé de Jinder en bien. Hein.
Je suis pas sûr, je crois qu'il fait
Ouais.
partie hein, des détracteurs,
Ah non,
voilà.
non, non. Il fait
Non?
partie des adorateurs. Attends, je vais pas.
Ah, c'est difficile à dire, on ne sait jamais vraiment.
Non.
Et si Maxence a mis Jinder avec un cœur, donc
Ah
effectivement,
oui, si, tu
soit
vois.
il est très ironique, soit effectivement, il est
J'espère
comme
qu'il n'est
toi.
pas ironique. Ouais.
Il a un poster de Jinder au-dessus de son lit. Merci à toi, Giscal, de m'avoir supporté pendant toute cette année.
Bah écoute, merci à toi Irem d'avoir présenté toute cette année et de m'avoir invité à chaque fois. C'est gentil, à chaque
Oh,
fois je
c'est plus
suis
bon.
dispo.
Allez, allez, tu sais quoi? Pour l'année prochaine, un double des clés. Tu pourras venir, voilà, tu seras
Ah,
comme à la maison.
ça c'est cool ça.
Plus besoin de sonner pour entrer dans les studios.
Yes, c'est bien parce qu'à chaque fois je demande le code, il change à chaque fois.
Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Salut à toutes et à
Allez,
tous.
ciao tout le monde. C'est le calme avant la tempête.